Marie-Françoise Maillard-Toraillé
et Marie-France Guimard-Roche sont très heureuses de vous retrouver sur Radio Grand Ciel pour leur émission
La cuisine des Maries.
Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui Marie et moi, nous sommes des becs sucrés. Oui. Vous allez avoir plein de recettes de gâteaux. Que ça va être bon. Je me souviens d'un ami qui m'avait invité il y a très 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 longtemps dans un restaurant, dans la rue Dauphine à Paris. Et à mon grand étonnement, il n'y avait que des desserts à la carte.
Ben,
on a
pas.
Déjeuné avec des desserts.
Génial, génial.
Lui aussi, c'était un bec sucré. Hein, c'est quelque chose.
Génial.
Et un petit steak. Ah ben non. Mais par contre, de la chantilly, tant que vous en voulez. Aujourd'hui, je vous emmène encore une fois en Alsace pour vous reparler de ces familles qui font du vin très, très bon. La plupart du temps, du vin blanc d'ailleurs, mais il y a aussi quelques rouges qui sont à remarquer.
Très bon, hein, le Pinot Rouge d'Alsace.
Oui, oui, excellent, tu as raison.
Mais oui, il est très bon.
Mais tu es une œnologue avertie.
Mais on a du mal à le trouver.
Oui, mais il y a des maisons qui sont spécialisées et en particulier, je vais parler de trois familles pour ne pas faire de jaloux. La famille Dess, qui a une vision exigeante de son métier et qui l'exerce depuis 1744. Quoique issue d'une famille de vignerons installée depuis 1744, donc la maison Dess, D-E-I-2-S, porte toujours le nom du grand-père Marcel, qui avait d'abord choisi le métier des armes, avant de se consacrer à l'exploitation familiale. Elle a pris son essor avec le remuant Jean-Michel, qui s'est jeté à corps perdu à la fois dans le terroir et la culture biodynamique, très moderne,
déjà,
avec une vision quasi mystique du métier. Alors que la région d'Alsace met en valeur ses cépages, le Riesling, le Gewürztraminer, provocateur, il préconise la plantation des cépages, seule manière selon lui de révéler maintenant ce terroir, ce qui irrite évidemment les traditionalistes. Il est vrai que la maison est toujours située à Bergheim, au cœur du vignoble alsacien, à quelques kilomètres de Ribeauvillers. Ah
bah
là
oui,
là, ce village.
Il est beau.
Mais Ribeauvillers, écoutez, c'est
aussi,
merveilleux. Et je me souviens d'un hôtel de charme, il n'y a pas vraiment d'autre mot, et il mérite cette appellation, c'est les seigneurs de Ribeaupierre.
Mmh. Ah non, mais attends, l'Alsace, c'est joli.
C'est magnifique.
Et c'est propre, c'est fleuri, c'est génial.
Écoutez, l'été, allez-y, c'est merveilleux.
Vous verrez des cigognes.
Aussi.
C'est vrai.
Et maintenant, elles ne vont bientôt plus quitter le territoire, puisque avec le réchauffement de la planète, elles vont rester dans leur grand nid. C'est dans un lieu où les terroirs sont particulièrement prégnants et dépassent la notion de cépage pour se forger une identité propre. Son fils Mathieu, qui a rejoint récemment la maison paternelle, mais nous étions le 6 septembre 2013 pour le Figaro Magazine, a partagé cette même vision exigeante. Alors les Dess, ça se prononce comme ça, Marie ?
Bah, je pense.
Voilà. Oui, une autre. Alors là, une maison de femmes, les Faller. Colette et ses filles. C'est protégé par les murs d'enceinte de l'ancien couvent des Capucins, cité dès 890. On faisait du vin depuis très longtemps en Alsace.
Ah bah oui.
Le clos des Capucins est acquis en 1898 par les frères Faller.
Mais beaucoup de vin et d'alcool, au départ, ça a été fait par des prêtres,
des communautés
religieuses.
Oui, oui, les moines, bah d'ailleurs, dont Pérignon.
Bah oui.
Entre autres.
Pour ne citer que lui.
Exactement. Et désormais, c'est Catherine qui s'occupe du commercial, puis son autre fille Laurence, ingénieure brillant à la vinification. Sous leur houlette, le domaine passe en biodynamie et les vins gagnent en pureté et en profondeur en se débarrassant de leur sucre résiduel. Eh oui. Pendant longtemps, le domaine s'appelait sobrement Faller Frères. Un petit clin d'œil à l'histoire. Récemment, il est devenu Colette Faller, F-A-2-L-E-R, et ses filles. Et avec ces vins d'Alsace qui sont tous excellents, super, mais il faut apprendre à les connaître et à les déguster à bon escient avec des plats avec lesquels ils s'accordent, évidemment. Je vais vous proposer, moi, pour commencer ce repas, d'abord, ça peut être pour l'apéritif, cette chose-là. Ça s'appelle une pizza tressée et c'est très facile pour une à deux personnes. Ah bon ? Ben, elles ont grand appétit, à mon avis, mais bon. Préparation 20 minutes, cuisson 20 minutes. Une pâte à pizza, pure huile d'olive. J'ai fait hurler des auditeurs l'autre jour en parlant d'une pizza pure beurre. Bah oui, c'est à l'huile d'olive, évidemment.
Bah oui, non, mais l'habitude de parler plus...
Exactement. 80 g de copa coupée en chiffonnade, 20 g de tomates séchées, 6 tomates cerises, 2 cuillères à soupe de concentré de tomates, 1 cuillère à café de graines de fenouil et 2 tiges de basilic. Vous écrasez les graines de fenouil à l'aide d'un pilon. Hachez grossièrement les tomates séchées et les feuilles de basilic. Coupez les tomates cerises en deux, déjà elles ne sont pas grosses, et déposez-les sur du papier absorbant pour les sécher. Taillez grossièrement les tranches de copa, préchauffez le four à 210 degrés centigrades, soit thermostat 7. Vous étalez cette pâte en formant un ovale d'environ 35 par 24, bon, au jugé, hein. Vous la placez sur la plaque de four recouverte de papier cuisson, puis vous étalez le concentré de tomate au centre, en formant une bande de 8 cm de largeur sur toute la longueur. Répartissez dessus les tomates séchées et les demi-tomates cerises, la copa, le fenouil et les feuilles de basilic. Entaillez les côtés de la pâte, laissée sans concentré, en bande d'environ 1,5 cm perpendiculairement à la garniture, pour faire des croisillons.
On fait des croisillons, voilà, comme pour une tarte.
Exactement. Mais là, c'est vraiment très, très serré. Et vous repliez les bande de pâte sur celle-ci. Ça vous fait en fait un boudin de pâte avec les ingrédients à l'intérieur que vous enfournez pendant 20 minutes. Et ça, c'est vraiment très, très bon. On la coupe en petites tranches. Ça dépend de la grosseur de votre pâte, enfin de votre enveloppement de pâte. Et voilà, pour l'apéritif, ça fait des petites tranchettes qui sont bien agréables.
Comment tu écrases tes graines de sésame si tu n'as pas de pilon ?
Au pilon.
Si tu n'en as pas ?
On s'en fait un.
Non, mais
tout le monde a un pilon.
Mais j'en ai pas, moi.
Bon, bah, tu fais le pchit. Tu sais, le pchit.
Non, je prends deux papiers.
Le papier absorbant.
Absorbant.
En rouleau.
Je mets mes graines. Voilà.
D'accord.
Au milieu, je recouvre et je prends mon rouleau à pâtisserie.
Eh oui. Ou une bouteille si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie.
Exactement. Une bouteille, on en a toujours.
Alors, donc, voilà. Un pizza tressée, une petite pâte à pizza à l'huile d'olive, 60 g de copa coupée en chiffonnade, 20 g de tomates séchées, 6 tomates cerises, 2 cuillères à soupe de concentré de tomates, bien concentré, hein, 1 cuillère à café de graines de fenouil, 2 tiges de basilic et une bouteille pour écraser vos graines de sésame. Les pâtisseries maintenant. Allez, les petits gâteaux.
Alors, une tarte viennoise. Après le...
L'Alsace, on voyage.
Vienne, c'est pas l'Alsace. Hein.
Non, mais vin alsacien et puis ensuite oui. Vienne.
Alors, c'est une tradition viennoise qui voulait que lorsqu'un jeune homme demandait une jeune fille en mariage, il l'emmena dans un café. Là, il commandait un gâteau et lui en offrait la moitié. En 1815, on compta jusqu'à 8 millions de gâteaux uniquement confectionnés à cet effet. C'est énorme.
C'est superbe.
Ah ouais.
Les Viennois étaient amoureux, dis-moi. Oui.
Alors, quelles que soient vos intentions, en confectionnant cette tarte, sachez que vous offrirez le plaisir de découvrir une spécialité autrichienne des plus délicates. J'ai trouvé ça très amusant.
Ah, c'est joli, bien sûr. Bien.
Alors, pour 5 personnes, il vous faut 100 g de beurre, 100 g de sucre semoule, un sachet de levure, un sachet de sucre vanillé, pourquoi la levure, 100 g d'amandes non émondées, 200 g de farine, un œuf entier, 50 g de chocolat à pâtisser.
Alors, avec une haute teneur en cacao.
Oui, il faut du au moins
52.
Ah, moi ouais. Je dirais 80.
Ah bah écoute, tu as tout à fait raison.
Moi je prends que du chocolat noir à 80.
Oui, mais tu as raison.
Une cuillère à café de cannelle, le zeste râpé d'un demi-citron, deux cuillères à soupe de jus de citron, une cuillère à café de rhum, une pincée de sel et 300 g de confiture de framboise.
D'accord.
Alors, vous râpez finement les amandes, puis le chocolat.
Et les amandes avec la peau, non émondée.
Non émondée, oui. Vous travaillez le beurre en crème. Vous ajoutez les sucres et le sel et vous mélangez jusqu'à la préparation soit mousseuse. Hein, donc,
oui, il faut vraiment mouver là.
Vous incorporez les amandes, la farine, l'œuf, le chocolat, le zeste de citron, le jus, le rhum et la cannelle. Vous mélangez ensuite tous ces ingrédients à la main.
Mm-hmm.
Pour obtenir une pâte homogène qui se détache des doigts, un peu comme pour le crumble.
Oui, bien sûr. Ça fait sabler, quoi. Oui.
Vous la roulez en boule et vous la laissez reposer une heure. Vous préchauffez le four un quart d'heure avant à 200 degrés, thermostat 6 ou 7. Vous prélevez les trois quarts de la pâte, vous l'abaissez et vous garnissez un moule d'environ 24 cm de diamètre.
Bon, oui, bah, la taille normale, quoi.
Vous tartinez la pâte de la confiture de framboise, vous décorez de croisillons découpés dans le reste de pâte et vous mettez au four 30 minutes.
Je fais une petite parenthèse. D'abord, la cannelle, j'aime pas, donc sauf dans le vin chaud. Et on peut s'en passer, c'est sûr. Et puis alors, la confiture de framboise. On va citer une troisième Marie qui est venue dans le temps faire des émissions avec nous et que nous regrettons beaucoup, Marie-Jo.
Ah oui.
Et qui, elle, pour tous ses gâteaux, achète une confiture, je la cite, tant pis, ça doit être Bonne Maman Intense,
voilà,
à la framboise. Ouais. Écoutez, j'en ai pas essayé d'autres, évidemment, puisque cette Marie-là nous a raconté que c'était très bon. D'ailleurs, on l'a goûté chez elle. Elle fait une tarte toute bête, sablée, avec des croisillons dessus.
Ouais, elle m'a donné la recette d'une tarte aux myrtilles que je vous donnerai la prochaine fois avec la même confiture.
Ah oui, c'est extraordinaire, ça. Mmh. Et j'ai remarqué qu'il y avait d'autres sortes de confitures de cette marque qui ont cette mention intense, mais c'est pas du bluff, hein.
Non, c'est vraiment
intense.
Bon, c'est sûr qu'il reste que pour les framboises quelques pépins, mais il y en a beaucoup moins dans ces confitures-là.
Je me demande si ça ne s'appelle pas des akènes, ou alors c'est seulement pour les fraises.
Mais c'est
vrai que c'est un peu gênant sous la dent, mais bon, faut ce qu'il faut, qu'est-ce que vous voulez, hein. C'est de la framboise, de la vraie.
Oui. Alors, vous ne démoulez la tarte qu'une fois froide. Si vous le pouvez, résistez à l'envie furieuse d'y goûter pendant 2 à 3 jours, elle n'en sera que meilleure.
Ça va être dur.
Oui.
Oh, ça va être difficile de résister.
C'est la tarte qui devient dure, c'est notre envie.
C'est terrible.
Alors, je vais vous donner les ingrédients.
Oui, bien sûr.
Alors, pour 6 personnes, 100 g de beurre, 30 g de semoule, un sachet de sucre vanillé, 100 g d'amandes non émondées, 200 g de farine, un œuf entier, 50 g de chocolat à pâtisser, au moins 70, sinon 80.
Oui, mais là, il y a toutes les formules d'ailleurs maintenant.
Alors, une demi-cuillère à café de cannelle, si on aime la cannelle, le zeste râpé d'un demi-citron, 2 cuillères à soupe de jus de citron, 1 cuillère à café de rhum, une pincée de sel et 300 g de confiture de framboise.
À bientôt, chers auditeurs. Régalez-vous et un petit tour de valse.
Pourquoi pas?
Allez, dans le studio, on
Pierre
y va.
Pierre va nous inviter à danser.
Mais j'espère bien. Au revoir Marie.
Au revoir Marie-France.